Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se retrouve dans l'émission Les Trois Coups sur les Ondes pour vous parler de la pièce Le Repas des Fauves, écrite par Vaikacha et mise en scène par Pierre Vallet. Si c'est la première fois que vous nous écoutez, bienvenue. Dans Les Trois Coups sur les Ondes, on vous parle des pièces produites sur scène lors du Festival des Trois Coups. Hors Covid, le festival se tient de mars à avril. Cette année, la culture est bousculée et le festival s'adapte en diffusant les pièces produites sur sa chaîne YouTube et Twitch à partir du 25 mars. Pour connaître le détail des dates de diffusion, je vous laisse vous rendre sur nos réseaux sociaux Instagram et Facebook, @festivallestroiscoups. Tout au long de cette émission, vous aurez l'habitude d'entendre plusieurs voix. Aujourd'hui, vous m'entendez moi, Emma Muller avec notre chroniqueur Martin Bélier, et lors d'une table ronde, celle du metteur en scène Pierre et d'une comédienne Valentine. Et pour cette émission, on vous parlera de la pièce Le Repas des Fauves, écrite par Vaikacha et mise en scène par Pierre Vallet. Bienvenue sur Les Trois Coups sur les Ondes. Aujourd'hui, nous allons parler de la pièce Le Repas des Fauves, écrite par Vaikacha et mise en scène par Pierre Vallet. Cette pièce, relativement connue, écrite dans les années 60, se déroule elle-même dans les années 40. Elle nous dévoile sous un nouveau jour une partie sombre de notre histoire. Cette pièce se déroule lors d'un repas d'anniversaire, un repas somme toute classique. Des amis chantent, boivent, discutent ensemble. Tout se déroule sous les meilleurs auspices, jusqu'à ce que deux officiers allemands soient abattus au pied de leur immeuble. Le doute, la peur et l'angoisse s'installent, quand tout à coup, les voilà interrompus par, vous l'avez sans doute deviné, la Gestapo. Pour en savoir plus sur ce repas mystérieux, laissez-vous emporter dans la fabuleuse chronique réalisée par Martin Bélier.
Salut, moi c'est Martin, et du coup je vais vous parler de la pièce Le Repas des Fauves, mis en scène par Pierre Vallet, et donc écrit à l'origine par Vaikacha, en espérant que je le prononce bien. Donc si j'ai bien compris, la pièce c'est un huis clos, on se retrouve autour d'une soirée, et suite à un meurtre, à un assassinat, les convives d'une soirée sont pris en otage pendant cette soirée par des dignitaires allemands et doivent sortir de cette soirée deux otages. À la lecture de synopsis, m'est apparu tout de suite le film, qui est aussi à l'origine une pièce de théâtre, 12 hommes en colère, donc pièce de théâtre à l'origine écrite par Réginald Rose en 54. Et moi, je vais plutôt vous parler d'adaptation au cinéma de Sidney Lumet en 57, qui est donc le premier film de Sidney Lumet. Et dans ce film, comme le titre l'indique, il y a 12 personnes, 12 hommes, qui sont 12 jurés, qui se retrouvent dans une pièce, là aussi en huis clos, et qui doivent délibérer face au sort d'un jeune garçon qui est accusé d'avoir tué son père, et qui, au début du film, tout le monde le... Il est déjà pris comme coupable. Les gens arrivent, c'est bon, pas besoin de délibérer. Moi j'ai mon match. Moi je dois aller faire des trucs. Enfin, ils veulent le condamner directement. Et une personne, incarnée par Henri Fonda, lui commence à émettre un doute et à poser la question. Et donc tout ce film dans cette pièce, les gens doivent délibérer, argument contre argument, et plus ça avance et plus c'est oppressant. Et puisque on va parler de mise en scène dans ce film, Sidney Lumet a expliqué, j'ai tourné les premiers tiers du film au-dessus du niveau des yeux, le deuxième tiers à hauteur des yeux et le dernier tiers au-dessous du niveau des yeux. Ainsi, vers la fin du film, on commençait à voir le plafond, les murs se rapprochaient, le plafond semblait s'abaisser. Cette sensation d'une claustrophobie grandissante m'a permis de maintenir la tension jusqu'à la fin, où j'utilisais un angle large pour laisser les spectateurs respirer. Donc tout au long du film, on entre dedans, on se rapproche des personnages. Dans l'utilisation des focus, c'est pareil. Il utilise des focales croissantes pour donner l'impression que les décors se rapprochent de plus en plus. Donc les personnages sont oppressés, collés au mur, et à la fin, c'est la respiration. Et donc je trouvais que c'était un film intéressant pour parler justement de cet univers du huis clos, avec un sujet, un thème qui se rend rapproché dans le côté délibération, bouc émissaire et tiraillement, puisque là, dans les deux cas, c'est pour envoyer des personnes au casse-pipe, quoi. Voilà, j'espère que ça donnera envie à certains d'aller voir ce film ou lire la pièce. Et bah, merci à Emma de m'avoir proposé de faire ça. Bisous à Angers, topette.
Aujourd'hui, on va vous parler du repas des fauves de Vaikacha. Mettre en scène le repas des fauves apparaît comme un vrai défi. Une soirée d'anniversaire comme tant d'autres se voit bouleversée par un meurtre. Et la pièce se posera alors plusieurs questions, notamment d'ordre moral. Tout cela dans un contexte historique qui a marqué nos esprits. Êtes-vous prêt et prête à entrer dans la tête d'un metteur en scène ambitieux qui n'hésite pas à mettre en scène la controverse, l'humour et la morale dans une pièce bouleversante? Laissez-moi donc vous présenter Pierre Vallet, metteur en scène de la pièce. Bonjour Pierre.
Bonjour.
Et Camille Guérin, qui joue le rôle de...
André.
André dans la pièce.
Bonjour.
Donc, au cours de cette table ronde, on va aborder plusieurs thèmes. J'aimerais d'abord aborder avec vous le thème de la peur des personnages dans la pièce, qui est assez présente et qui, j'ai l'impression, évolue au fur et à mesure du temps. Donc, dans ce contexte, un petit peu, ce régime, il me semble que c'est durant la Seconde Guerre mondiale.
1942, du côté de Paris, sous l'occupation.
Voilà, tout à fait. D'abord, une question pour toi, Pierre. Comment tu as amené ça dans la pièce, dans une première lecture déjà, et comment, sachant que les personnages sont assez, comment dire, ils sont assez à l'aise avec ce régime à la base, j'ai l'impression. Ils font des petites magouilles avec...
Certains plus que d'autres, mais oui.
Voilà, et donc, il y a quand même, une fois que ce personnage allemand entre et intervient, il y a quand même une peur qui monte au fur et à mesure du temps, j'ai l'impression. Et j'aimerais savoir comment toi, tu la mets en pièce, et peut-être toi, Camille, comment tu peux le ressentir, et si ça évolue au fur et à mesure de la pièce, si ça évolue, comment
La mise en scène au début, donc, comme tu disais tout à fait, ils sont juste là entre amis en train de fêter l'anniversaire donc de Sophie, leur hôte. Et d'un coup, donc, il y a ce personnage de Kaobar, le SS, qui débarque, qui leur fait « Bon, bah, deux Allemands ont été abattus en bas de chez vous, j'ai besoin de deux otages. Mais puisque c'est un anniversaire, je vais être magnanime, je vous laisse les désigner. » Donc ils se retrouvent tous à devoir désigner lequel de sept, ça y est, je ne sais déjà plus combien ils sont. Parmi nous sept, on doit en désigner deux qui doivent mourir. Ça nous tombe dessus comme ça. Tout le monde le prend à sa manière, avec ses idéaux, ses façons de penser. Je t'en prie, vas-y.
Ce que je voulais ajouter, c'est simplement qu'au début, ils n'ont pas peur, parce qu'ils se disent qu'ils vont pouvoir sortir de cette situation. Mais au fur et à mesure, ils se rendent compte que oui, ils vont être obligés de faire un choix. Et c'est là qu'ils commencent vraiment à avoir tous peur. Enfin, plus ou moins, comme l'a dit Pierre.
C'est ça. La première chose, c'est que ça leur tombe dessus d'un coup. Ils s'y attendaient pas. Et à partir de ce moment-là, c'est une espèce de descente aux enfers, presque en mode tragédie grecque, où ça y est, c'est bon, c'est foutu, de toute façon, c'est comme ça que ça va se passer. Et on part de plus en plus dans le chaos. Au début, ils se disent, bon, on désigne personne, on va commencer par... faut qu'on trouve un moyen de s'enfuir. Puis ils se rendent compte que non, ça marche pas. Bon, bah du coup, toi, tu pars. Ah bah non, moi, je vais pas partir. Mais pourquoi? Bah, j'ai pas envie de partir, j'ai pas envie de crever. Pourquoi ce serait pas toi? Et ça empire, et puis ça commence à se lancer ces quatre vérités.
Et du coup, par exemple, spécifiquement sur le personnage d'André, comment ça peut évoluer?
André, déjà, c'est le personnage un petit peu... Il sort un petit peu par rapport aux autres, en ça que, de base, il n'était pas invité.
Oui.
Il n'était pas invité. Et André, pour lui, il est trop bon pour ça. Il est trop jeune pour mourir, il est trop important pour la société pour mourir. Il n'a pas envie que ça le tombe sur lui, donc par tous les moyens possibles et imaginables, que ce soit moral ou pas, il faut que ce soit quelqu'un d'autre qui se désigne ou qui soit désigné volontaire.
Oui, mais tous les moyens sont bons.
Et tous les moyens sont bons.
Tous les moyens sont bons, donc ça promet quelque chose d'assez intense quand même.
Oui. C'est ça.
Et du coup, j'imagine qu'il y a cette tension entre les personnages qui évolue au fur et à mesure du temps, que des amis deviennent peut-être des ennemis.
Mmh. Des alliances se créent, des alliances se brisent.
Tout à fait. Est-ce que vous pouvez peut-être nous en dire plus sur cette tension qui naît et comment elle naît? Par qui engendre cette tension? Est-ce que c'est une situation?
Principalement la situation, ils se retrouvent tous face à la mort. Et il y a dans la pièce aussi cette espèce d'agent du chaos que j'aime beaucoup, le personnage de Vincent, qui est là, qui est maître de philosophie, et qui lui se fait « bah, de toute façon on va tous mourir, donc il va bien falloir que quelqu'un se désigne ». Et donc il commence à s'approprier la situation, à en jouer, et il va trouver toujours le moyen de piquer là où ça fait mal pour relancer la machine infernale, et que ça repart de plus en plus loin et de pire en pire.
Je dirais que mon personnage est pas mal non plus pour ça. C'est celui qui va essayer de titiller les autres pour savoir est-ce que toi tu serais pas résistant par exemple, comme ça ce serait une bonne raison qu'on essaye de nous avoir, de prendre un otage chez nous, ce genre de choses.
Exemple, dans la pièce, André fait le tour de la scène, va légèrement entrouvrir la porte du bureau dans lequel est caché et attend le SS, vient s'asseoir sur le canopé à côté d'un autre personnage, il fait « Toi qui reviens du front, t'en as tué des nazis hein ?» Non, puis tu serais bien résistant en ce moment, en essayant de lui faire cracher le morceau pour que le nazi l'entende. Il fait « Ah bah c'est bon, vous partez avec eux. »
Donc ils s'accusent au fur et à mesure, un petit peu entre eux, ça devient presque...
C'est ça, ils sont tous en train de s'accuser les uns les autres, de ne pas vouloir partir.
Et chaque personnage à la fin, aucun personnage qu'on aurait pu penser blanc devient gris.
C'est ça.
Aucun n'est parfait.
Donc en fait, dans chaque personnage, l'auteur, et j'imagine que c'est ce que tu essaies de mettre en scène, c'est que chaque personnage n'est pas blanc ou noir, mais bien gris, et que chacun essaie de faire comme il peut. Et là, il y a l'intégrité aussi de la personne qui rentre en jeu. Mais de toute façon, c'est un sujet qu'on abordera un peu plus tard sur le sujet de la morale, que j'aimerais bien aussi aborder avec vous. En attendant, si vous n'avez pas d'autres réponses sur ce sujet... Je vous propose de passer au thème suivant, qui est la décision de livrer un des autres, qui est quand même assez similaire au premier sujet. Mais du coup, on en vient à cette question de sens moral. Ma remarque, c'était comment, parce que c'est quand même terrible, comment mettre en scène le terrible là-dedans? Est-ce qu'il y a des éléments scéniques, des sons, des objets qui font qu'on montre que c'est vraiment... C'est presque une décision impossible et c'est une ambiance, j'imagine, qui est assez lourde au fur et à mesure du temps.
Du coup, pour ça, l'approche que j'ai voulu prendre, c'est le grotesque. Aller à fond dans le truc, quitte à le surjouer, et qu'il le fasse tellement que ça en devient ridicule. Arrêtez, de toute façon, vous n'en sortirez pas comme ça. La pièce est déjà écrite comme ça, la mise en scène, j'essaie d'aller encore un peu plus là-dedans. Faudra qu'on revoie ça du coup encore en répétition, un truc comme ça, vraiment aller presque dans le surjeu pour que les personnages paraissent ridicules, vraiment aller dans le grotesque.
En fait, ça devient de l'humour à 200%.
C'est ça.
Et c'est tellement absurde qu'on peut pas croire que ça arrive, c'est ça un petit peu l'idée?
Exactement.
D'accord, ok.
Pas la prendre sérieux premier degré, vraiment la pousser.
Ok. Et toi, qu'est-ce que tu en penses, Camille?
On n'a pas encore eu l'occasion vraiment de faire de la mise en scène. Mais oui, au niveau des dialogues, on essaie vraiment d'être dans le gros texte, dans le gros test.
Grotesque.
Grotesque. Pardon. Surjoué, dans le surjoué. Donc, je vais voir ce que Pierre nous propose bientôt.
Après, au niveau des gestuels, j'imagine que ça va quand même pas mal jouer. Sur la position corporelle aussi.
C'est ça.
Et sur la mise en scène en elle-même, j'imagine que Pierre, tu as des idées déjà qui sont en tête, ou est-ce que tu vas laisser quand même libre cours aux comédiens sur leur proposition de jeu et sur comment ils pourraient mettre en scène éventuellement ce mélange un petit peu de terrible, absurde? Ça va être peut-être assez compliqué comme exercice.
C'est... De toute façon, dans ma tête, ça a toujours été un exercice de groupe qu'on fait tous ensemble. Donc je leur donne une ligne directrice, la vision que j'ai de la pièce. Après, ils l'adaptent comme ils veulent. S'il y en a un qui me dit « Ah, le personnage, je le voyais pas tellement comme ça, mais plutôt comme ci », je vais dire « Oui, bah, très bien, ton point est valide, vas-y, essaye, et si ça marche bien, bah, tant mieux. »
D'accord, c'est plutôt une bonne...
C'est ça. C'est moi le metteur en scène, c'est moi qui mets en scène la pièce, j'ai la vision générale, mais on est tous dedans. C'est un travail qu'on fait tous ensemble.
C'est un travail collectif, même s'il y a une idée derrière quand même de mise en scène
c'est ça.
Déjà rodée.
Il y a un fil rouge voilà. dont il ne faut pas trop dévier, mais il y a une certaine zone de liberté où on peut naviguer sans problème.
Aussi, comme on était en distanciel, on a beaucoup plus eu le temps de s'approprier le texte avant qu'on se rencontre en vrai et là que Pierre nous donne davantage de directives pour le jeu.
C'est ça. Là maintenant, le problème, c'est trouver un coin où répéter, où on puisse voir un peu les mouvements.
Voilà.
Ah oui, bah oui.
Que forcément,
c'est quand même plus pratique.
Voilà.
Et justement, en fait, dans cette gestuelle, ce jeu, etc., bon, c'est un petit peu compliqué d'en parler en ces temps covidés. Mais j'aimerais savoir, poser des questions sur le spectateur, en fait, dans la pièce. Toujours dans ce thème de morale et de terrible, mélangé à l'absurde, j'imagine que... Bon, peut-être que tu n'as pas pensé, Pierre, à inclure le spectateur, étant donné que les pièces vont se faire en captation. Mais six spectateurs, il y a six pièces, c'est rejoué, peut-être dans un futur proche.
Peut-être.
Comment tu comptes faire ressentir cet absurde, ce terrible, cette controverse au spectateur? Et comment t'aimerais qu'il se s'empare, en fait, de cette émotion-là?
Pour le public, j'imaginais ça... Que le public sorte de la pièce avec en aimant aucun des personnages. Ils vont tous avoir dit ou fait quelque chose dans la pièce et vont faire « Ah mais non, mais lui, c'est une vraie, véritable ordure. » Et sortir en se disant « En fait, le mec le plus droit dans ses bottes depuis le début, c'était le nazi. » Qui est une espèce de renversement de ce renversement qui se font que en fait, les monstres depuis le début, c'était les personnages, pas le nazi.
D'accord. Et en fait, vous n'avez pas peur, du coup, je pose la question à vous deux, que justement, il y a quand même, comme c'est une histoire qui est assez lourde, comme c'est un contexte qui est assez compliqué, et que les gens, c'est très difficile de faire dire à quelqu'un, en fait, le nazi, c'était le gentil.
C'est pour ça, justement, que je veux pousser l'absurde maximum et le grotesque, pour que ça en devienne tellement absurde que c'est pas possible, c'est pas réel, c'est pas quelque chose qui a pu arriver. Que ça se désolidarise un peu de la réalité.
Oui, il y a des
répliques. Pour que ça passe mieux.
Il y a des répliques qui sont vraiment, je pense à celle d'André, celle de mon personnage, c'est... Ah non, on n'aimerait pas le rencontrer dans la vie, quoi.
T'as un exemple de réplique à nous donner pour un petit spoil?
Petit spoil...
Je sais pas, qu'est-ce qu'il y a comme réplique d'André?
Oh bah, il y a le fameux... Vincent, ne serait-il pas un peu juif?
Non, s'il était juif, il ne serait pas dans l'enseignement.
Peut-être. N'empêche que j'aimerais bien savoir s'il n'est pas juif.
Oh, s'il prend son manteau du, moi je vais vous le dire s'il est juif. Voilà, ce genre de réplique.
Voilà, c'est ça.
Vraiment, là, à surjouer pour se dire, mais non, mais ils sont ridicules, arrêtez. Et ça sort complètement de la réalité. Et là, du coup, on perd le côté plus lourd de la pièce.
Oui, donc du coup, en fait, on serait quand même inclus dans la pièce en étant éloigné d'un sujet qui... En rendant absurde un sujet qui est assez lourd, quand même.
C'est ça.
Et c'est ça qui a l'air aussi... De te tenir à cœur, Pierre, en l'occurrence, en termes de ce que je comprends, en termes de mise en scène, c'est vraiment ne pas faire culpabiliser le spectateur d'un attachement particulier à un personnage. C'est bien
c'est
ce
ça.
Que j'ai compris ?
Oui.
D'accord. Et Camille, est-ce que toi, ton personnage, par exemple, tu penses qu'il pourrait être détestable ? Et est-ce que, dans un autre sens, tu penses qu'il pourrait être aimable aussi par les spectateurs ?
Sincèrement, je le considère plutôt détestable. Je ne vois pas comment quelqu'un pourrait l'apprécier. Et contrairement à d'autres personnages de la pièce, c'est celui qui, dès qu'il arrive, dès qu'il s'incruste finalement chez Sophie, on se dit « Ah, qu'est-ce qu'il pourrait faire pour m'enrager davantage ?» Et je pense qu'il y arrive.
Il y arrive très bien, tu penses ?
Oh oui.
Je pense que le seul personnage avec lequel on puisse sortir de la pièce avec un peu de sympathie, en dehors du commandant Kaubar, c'est Sophie. Celle dont c'est l'anniversaire, mais parce que Sophie, du coup, elle a une espèce de candeur infantile. C'est encore une enfant. Du coup, on peut pas lui en vouloir parce que elle le fait pas exprès. Elle a juste pas compris ce qui lui arrivait.
Sophie, elle subit un petit peu la situation, en fait.
C'est ça. Sophie, ça lui tombe dessus. Au début de la pièce, dans la première partie, quand ça commence juste à quand le chaos commence juste à se remuer. Sophie, elle est encore dans l'optique « Oh non, mais arrêtez de parler de politique. Oh non, va encore falloir que je nettoie tout après vous. » Elle ne réalise pas du tout ce qui lui arrive.
D'accord.
Et j'ajouterais Françoise quand même. Françoise, parce qu'elle a, du fait de son passé difficile, c'est justifié certaines de ses actions et certains de ses mots sont justifiés. Oui.
Françoise, dans la pièce, qui est une veuve de guerre, son mari est parti au front, n'en est pas revenu.
et ses parents ont été déportés.
Ses parents ont été déportés. La figure résistante de la pièce, du coup, elle a un engagement derrière qui la rend un peu plus amicale. Mais il y a quand même des choses qu'elle fait qui... Non.
D'accord, parce que là, du coup, ça me fait une superbe transition pour passer à mon dernier thème. C'est insane. C'est l'histoire des personnages et la singularité des personnages. Parce qu'il me semble, pour m'être renseignée un petit peu sur la pièce de ma faible connaissance, évidemment, que les personnages sont quand même assez distinctifs, malgré leur nuancier, comme si on revient sur, si on continue la métaphore sur les couleurs, un peu gris. Ils ont quand même l'air d'avoir des caractères qui sont assez forts, assez distinctifs et auxquels une personne peut vite s'attacher, finalement. Ces caractéristiques, peut-être à travers un exemple que vous pouvez me donner, elles peuvent être mises en avant sur un personnage, par exemple. Comment on fait ressortir cette caractéristique par la mise en scène, par exemple?
Pour parler un peu de la morale, du coup, ouais, je pense que je vais te parler ça à travers du personnage du docteur. Le docteur qui, lui, arrive à la soirée, qui avait été invité, qui dit bonjour tout le monde. Et au moment où ils entendent les deux coups de feu, qui se rend compte que deux personnes ont été abattues, qui se rend compte que c'est deux nazis qui ont été abattus, son premier réflexe, c'est il faut aller les sauver. Il est docteur, il a prêté son serment, il doit sauver les gens. Et lui, c'est son premier réflexe. Les gens ne doivent pas souffrir. Et du coup, ça, c'est son. C'est autour de ça qu'est construit le personnage. Et chaque personnage a comme ça un trait autour duquel il est construit, un trait prédominant. Et le docteur, du coup, c'est ça, c'est je suis docteur, je sauve des vies, et je vais faire en sorte que personne ne meure.
Donc lui, en dehors du fait que, par exemple, ce personnage-là, en dehors du fait qu'il existe dans la pièce en tant que personne, il ressort d'abord en tant que ce qu'il fait de mieux, c'est-à-dire être docteur.
C'est ça. Chaque personnage a son trait prédominant qui est autant son point fort que son point faible. À chaque fois, le trait est autant servi, sert autant à appuyer le personnage comme quelqu'un de bien que comme quelqu'un de mal. Ça sert dans les deux sens.
D'où ce nuancier de noir et blanc.
Exactement.
Qu'on retrouve normalement beaucoup dans la pièce. Et du coup, le personnage, Camille, je m'adresse à toi pour le coup là, vu qu'on parle de caractéristiques du personnage, par exemple, le tien, quelle place il prend dans la pièce? Qu'est-ce que, selon toi, la caractéristique principale de ce personnage, c'est quoi?
Alors, je vais revenir sur les mots de Pierre. La caractéristique qui... Ce qui caractérise André, je dirais que c'est l'argent. L'argent qui peut lui permettre de s'en sortir en proposant de l'argent en échange que des personnes se dévouent. Mais c'est aussi son point faible. Ça fait qu'il vit dans l'opulence, André. C'est quelqu'un qui n'a pas de problème au niveau de la nourriture. Il manque pas de nourriture. Mais il est atrocement seul, quoi. Il est atrocement seul. On a l'impression qu'il a très peu d'amis. Il s'incruste aux fêtes.
Ça. André est très cupide, très mercantile, en ça que pour lui, vu qu'il a de l'argent, tout s'achète. Du coup, il tente d'acheter sa liberté, il tente d'acheter ses amis pour qu'il se dévoue, il tente de tout acheter, et dès qu'on le sort de sa bulle de confort, il est perdu, il sait plus quoi faire.
D'accord, donc André, ça serait un petit peu... Oui, c'est un personnage qui se sent vraiment très seul, mais comment dire ? Il achète un petit peu il achète sa vie, en fait, en quelque sorte, c'est ce que je comprends.
Complètement.
Voilà. Il essaie de se procurer une vie qui semble être similaire à celle de ses amis, mais par l'argent, j'imagine, en sa défaveur. Mais est-ce qu'il y a un moment donné dans la pièce où ça lui sert, par exemple?
Déjà au début, la façon dont il s'incruste, finalement, c'est parce qu'il a... Il arrive à convaincre les gens de le faire rester parce qu'il a un beau panier de nourriture avec plein de
superbes
victuailles et une belle caméra pour prendre tout le monde
en photo.
Pour capturer le moment. Mais non, à part ça, l'argent, Est-ce que l'argent va lui servir à part ça? Je ne pense pas.
À part ça, non, ça lui a pas servi à grand chose dans le reste de la pièce. C'est vraiment juste au début, il arrive avec du coup son panier avec, je sais plus, il y a champagne, saucisson, les choses qu'on trouvait qu'au marché noir à l'époque.
Voilà.
Et du coup, ils font, bon, bah, puisque t'es là avec la nourriture, vas-y, reste, de toute façon, on avait une place de libre. Mm. Mais à chaque fois, là, dès que Cobar arrive, il arrive, il dit en allemand, oh, bonjour, oui, écoutez, non, on peut se débrouiller, tenez, vous prenez un chèque, il tente de le soudoyer devant tout le monde. Ça ne passe pas. Plus tard, il fait, bon, allez, celui qui se dévoue, je lui offre un chèque, il l'offre à qui il veut. À chaque fois, il en revient à l'argent et à chaque fois, ça lui retombe dessus.
Ouais.
Le pauvre André.
Le pauvre André, finalement. Et donc, j'aurais une dernière question sur là qui va plus s'adresser à Pierre, sur le choix de la pièce. Question très basique, mais finalement, qui intéresse beaucoup d'auditeurs et de personnes qui veulent participer ou voir le festival. En captation, je le rappelle, cette année, malheureusement.
Malheureusement.
Pourquoi le choix de cette pièce? Et avant de faire les auditions, as-tu eu déjà des idées de la manière dont elle pourrait être mise en scène? Est-ce que c'est lié au contexte? Est-ce qu'il y a une explication particulière?
Lié au contexte, pas du tout, puisque personne s'attendait à ce que ça finisse comme ça. Pourquoi cette pièce? J'en avais entendu parler parce que quelqu'un m'en avait parlé. C'était l'année dernière aux portes ouvertes de la Cato. Une dame qui venait voir les trois coups, qu'est-ce que c'est? On commence à parler un petit peu théâtre, et elle me parlait du coup de cette pièce qu'elle était allée voir dans un théâtre à Paris. Je lui ai fait, ah, sympathique, je regarde un petit peu de quoi il en retourne. Le soir même, je la commandais et ça arrivait quelques jours plus tard. Je la lis et j'avais déjà cette idée dans la tête de... Ça faisait 4 ans que j'étais aux trois coups en tant que comédien, que j'étais sous les projecteurs. Et je me dis, passons du côté obscur, tentons la mise en scène. Je lis la pièce et je me fais ah, c'est sympa, c'est un humour noir que j'aime beaucoup. Si on peut parler vraiment d'humour.
Et donc tu qualifies quand même cette pièce dans l'humour noir.
De la mise en scène que j'en fais, justement à la pousser dans le comique à fond pour que ça devienne ridicule et risible. Et de toute façon, je pense pas que j'aurais réussi à la faire en sérieux, lourd et noir. C'est pas mon genre de faire ce genre de choses. Et du coup, voilà pourquoi cette pièce. Parce que du coup, je trouvais qu'il y avait quelque chose de sympathique à en faire. Et j'aimais bien les personnages.
Les personnages.
La façon dont sont traités les personnages, c'est... Et bien sympathique.
Finalement, tous les personnages que le public détesterait, toi, tu les admires un petit peu.
Je les aime bien, mais parce que j'ai toujours eu plus d'affinité avec les méchants qu'avec les gentils, quel que soit le film. Dans Le Roi Lion, mon personnage préféré, c'est Scar, le bossu Notre-Dame, ça va être Frollo. Chaque fois, je les trouve plus intéressants.
Dans leurs caractéristiques, parce que du gris.
C'est ça.
Je vois.
Il y en a qui sont méchants, mais parfois, ils ont des bonnes raisons d'être méchants. J'aime bien un bon... Je préfère un bon méchant à un bon gentil.
J'aime bien cette petite comparaison à Disney, ça me plaît bien. Auriez-vous, pour finir cette émission, un petit mot, une petite phrase chacun pour donner envie d'aller voir cette pièce qui va être exceptionnelle, n'est-ce pas?
Exactement.
C'est une pièce exceptionnelle, portée par des comédiens de qualité, des comédiens qui sont beaux, des comédiens qui jouent bien.
Et un metteur en scène au top.
Oui, non, si vous voulez passer un bon moment et vous rire du malheur des autres et d'à quel point ils sont ridicules, venez voir L'Europe à défaut. Et je vous garantis que vous passerez un bon moment.
Je suis totalement d'accord avec ça.
Merci beaucoup à vous deux d'être venus et d'avoir passé ce temps avec moi.
Merci à toi.
Et de rien. Merci à toi de nous donner cette opportunité.
Comme nous avons pu l'entendre au cours de cette table ronde, la pièce met principalement l'accent sur la dualité entre le terrible déroulement des événements et l'écriture à caractère presque absurde de la pièce. C'est ce que le metteur en scène, Pierre Vallet, compte bien faire ressentir dans sa mise en scène. Pour faire suite aux propos qui ont été dénoncés durant la table ronde, la situation sanitaire actuelle permet dans un sens d'observer un autre point de vue de la mise en scène. Par ailleurs, nous pouvons nous demander, mais comment va-t-il faire pour mettre en scène à la fois l'absurde et le terrible ? Nous pouvons nous imaginer un tas de choses, pourquoi pas des costumes colorés, une mise en scène festive et des personnages à caractère fort. Nous comprenons alors très vite que cette pièce n'aura pas pour but de dramatiser une situation déjà lourde émotionnellement. Pierre Vallet essaie ici de nous transmettre une émission et un parti pris. Cela s'illustre notamment dans la mise en avant des caractères des personnages, comme nous avons pu l'entendre. On ne peut pas détester ou totalement aimer un personnage. C'est bien là la beauté de la chose et de ceux qui constituent la pièce. Le repas des fauves nous permet par ailleurs de nous poser des questions sur nos propres agissements et la propre décision, car cette pièce interroge la morale et la culpabilité, notamment lorsqu'on voit que les personnages sont amenés à prendre des décisions qui sont difficiles. C'est pour cela qu'il est alors difficile de choisir si l'on aime ou l'on n'aime pas un personnage, ou si l'on aime ou on n'aime pas une situation. Bien sûr, certains comportements nous amèneront à nous dire que ce personnage ne prend pas les bonnes décisions. Mais, au final, on se poserait la même question. Est-ce que j'aurais fait pareil ? Un mot alors pour résumer le caractère de cette pièce, la nuance. Elle se manifeste dans les situations et même dans les personnages les plus terribles. Pour citer le metteur en scène, aucun personnage n'est ni noir ni blanc. Tout est gris. Merci de nous avoir écoutés dans l'émission Les Trois Coups sur les Ondes. Cette émission fait partie de la saison 2 des Trois Coups sur les Ondes. Vous pouvez retrouver les épisodes sur le site radiocampus.fr, Angers. Nous vous remercions de nous suivre et nous espérons que vous profitez des pièces diffusées sur Twitch et YouTube. Et si vous souhaitez en savoir plus sur les dates de diffusion, suivez-nous sur notre Instagram et Facebook, @festivallestroiscoups. Un grand merci à tous nos chroniqueurs et chroniqueuses d'avoir participé à notre émission. Juliette Chevet, Louise Lefebvre, Justin Loisy, Inès Poirier, Martin Bélier et Amélie Rochet. Merci à Radio Campus de nous prêter leur studio et leur matériel et de nous allouer de leur temps. Merci également à Cobalt d'avoir cru en notre projet, mais aussi pour le mixage et le suivi du projet. Cette émission est réalisée par trois membres du bureau des Trois Coups, Zoé Paré, Doriane Rochet et moi-même, Emma Muller. L'émission est coproduite en partenariat avec Cobalt. Merci beaucoup pour votre écoute et à jeudi prochain, 16h30. À bientôt !